Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous voici donc à nouveau pour des lectures en liberté et la suite du récit de Jacques Josse, Café Rousseau. 15 ans plus tard, c'est le même homme qui continue de courir les routes. Il porte une identique veste sombre. Il a le même béret basque posé de travers sur le crâne. Aujourd'hui, il file à toute allure. Il a un rendez-vous couleur de suie. Il court chez le cabaretier Rousseau. Il gronde en allongeant les jambes. Toute approche de deuil le jette dans une sorte de transe. Il imagine une pile d'hosties noires déposée par la mort au creux du tabernacle. Il s'escrime à sucer la roue de la faucheuse. Il sait à peu près où elle est, où elle tire ses os, où elle aiguise ses instruments et chez quel quidam se rend cette danseuse au squelette monté sur chaussures à ressort. Il la précède presque toujours, multipliant les périples d'un hameau à l'autre en quête d'un indice, d'un secret d'alcôve ou d'un ultime murmure. Dès l'automne, il se tient prêt. Les vents d'ouest le trouvent en état d'alerte. Les saints sacrements sont rangés sur une étagère recouverte de velours mauve, livres, prières, huiles saintes, eaux de Lourdes. Il y ajoute le plus souvent une coupe de champagne pour aider l'âme du moribond à pétiller en franchissant la frontière. Il voltige, il caracole, il invente des pointes sur la lande. S'il n'était pas si fébrile, s'il regardait un peu autour de lui, il verrait certains habitants du village en train de s'occuper comme ils peuvent. Tony et le professeur Karoff, par exemple. Ils sont en ce moment assis sur un rocher en contrebas de la route, les jambes ballantes, muets devant leur attirail de pêche. Ils fument une cigarette en attendant que ça morde. Je fixe ma pensée sur elle, maugrit-il. Là-bas, le taureau, les dames, les pierres noires et la cheminée s'en balancent. Ce ne sont que des amas de roches égarées au milieu de l'océan. Eux ne connaissent pas la mort avec ses vêtements de brume, son haleine de menthe, son long corps gracile qui ondule, soupire, s'étire à hauteur d'ardoise afin de se faufiler par un interstice. Fenêtre ou lucarne, dans la turne où quelque essoufflé en partance la réclame. J'allonge le pas, je double un fantôme. Je fais cliqueter le trousseau de clés dans ma poche. Il s'éloigne, il a peur. Je double une maison isolée. Ici, je sais que le linceul de la vieille briquire flotte au vent. Elle le lave tous les jours depuis 6 mois. Le met dehors en début d'après-midi, le ramasse le soir, s'enroule dedans la nuit, le salit, le relave, et ainsi de suite, depuis une demi-année. J'évite de croiser les prunelles vertes de son chat. Assis sur le seuil de la porte, il miaule en me voyant. Il veut m'avertir, m'attirer, me glisser ses confidences à l'oreille. J'accélère l'allure. Rousseau ne se relèvera pas. Aucune femme brune, ni à Buenos Aires, ni à Valparaiso, ne se souviendra de lui. Il a beau avoir fait l'amour à la mer entière, il a beau avoir râlé dans des ventres pour solitude en transit. n'hésitant pas à coucher ses 130 kilos sur le corps de très jeunes femmes dans des chambres minables où seul un lit, un lavabo, une cuvette, un savon, un gant de toilette et une serviette usagée meublaient le décor. Il a beau avoir hoqueté de plaisir, ne pesant pas plus que le poids d'un rossignol, quand il laissait jaillir sa semence en une seule fois, submergeant d'une chaude déferlante, lui, onctueux, d'une imperturbable inconnue. Rien n'y fera. Rien n'arrêtera l'inexorable venue blanche de celle qui bloquera d'un coup sec les aiguilles de son horloge intérieure. Le soleil disparaît. Le curé a bifurqué, il aperçoit Mélanie à la sortie d'un virage. Elle se dirige vers la Croix des Forges, le sac à provisions à la main. Dans une minute, Hubert sera à pied d'œuvre, pense-t-il. Il entre maintenant dans le hameau de Kerruot. C'est ici, troisième arbre, sur la branche porteuse, que le mari de la vieille Briquire s'est pendu. C'était un matin de neige, une de ces aubes cassantes, givrées, mi-rose, mi-violette, où le ciel, après avoir pris soin de faire taire les chiens, aime à ensevelir l'écorce, le lierre et le reste, pour amortir la rencontre du cou et de la corde qui craquent, évidemment, en même temps. À quoi bon ressasser cela ? Le curé hausse les épaules. D'ailleurs, Briquire était hindou, un mélancolique bataillé pour gamberger des lustres et des lustres durant sur terre. C'était un caresseur de chats, toujours en vague apesanteur, à jouer au poker dans la poussière des bréviaires ou à humer du pollen de renne entre les fesses talquées de Notre-Dame des Mirages. Ne pouvait pas finir autrement. Trop triste. Trop sensible. Et poète, probablement. Ce qui n'arrange jamais rien. Une sorte de Jean de la Lune à la semence perdue sous les feuilles mortes, où venait aussi pisser un chien d'arrêt et un couple de sangliers au gros hain de cendre et d'aubépine. Un café, un soir. Il n'y a rien d'autre à décrire. Aucune histoire louche à pétrir. La fin d'un parcours ordinaire se prépare, un point c'est tout. Au moment où jambes molles et souffle court, le curé entr'ouvre la porte, il entend claquer une autre porte à l'étage. Quelqu'un descend l'escalier. Peu après, l'infirmière apparaît, elle le salue. Sourire d'abord, puis « Bonjour mon père ». Il se décide, s'avance, l'attend au bas des marches. Elle est blonde. Elle a 40 ans. Elle porte une jupe fendue. À chacun de ses pas, ses cuisses, ses fesses semblent devoir jaillir du tissu. L'abbé s'arrange pour lui obstruer légèrement le passage de façon à lui frôler les seins, ce qu'il fait sans tarder furtivement mais avec assez d'insistance pour sentir les deux globes fermes rouler l'un après l'autre sur son épaule. « Comment va notre malade ? » demande-t-il. « Pas très bien. Mais enfin, il ne souffre pas et c'est l'essentiel. » « Il voyage toujours ?» De plus en plus. Hier, il était à Bornéo, aujourd'hui à Tanger. Vous savez, il va aller comme ça jusqu'au bout. Le curé reste silencieux. Il casse du petit bois dans ses pensées. Débusque un lièvre, une belette, perçoit le cri de la hulotte et plus strident celui de la poule faisane. Rien ne le raccroche au quotidien. Rien, hormis la mort. La mort. « Je monte » lance-t-il, tandis qu'au bout du couloir, la porte se referme. « Immobile dans son lit, Rousseau ouvre l'œil. « Ah ! C'est toi, Inizan !»
Fidèle à ses habitudes, le curé ne répond pas. Il s'assoit. Défait la ficelle mauve de l'étui, en extrait le chapelet blanc qu'il déroule, en laissant venir la suite. Il sait s'y prendre.
Le colosse adore circuler entre secrets et bavardages. Il ne faut pas le brusquer. La pureté de la confession pourrait s'en ressentir.
Ce soir, il a le teint jaune renoncule. Le visage toujours aussi bouffi avec au milieu la fraise et en prime, ultime épreuve, une légère difficulté à respirer.
Près de lui, sur le petit meuble qui jouxte le lit, sont posés le pistolet d'infortune, 3 ou 4 boîtes de médicaments, une grande bouteille d'eau minérale et un journal arrêté à la rubrique « Où sont nos navires ?»
Inizan reluque surtout le ventre. Ce ballon de baudruche démesuré forme un remarquable dôme sous l'édredon. Il semble même avoir doublé de volume en une seule journée. Assis sur la chaise basse, les yeux rivés sur l'énorme bedaine, l'abbé ne peut s'empêcher de se remémorer les récents propos du docteur.
Il y a quelques jours, le prenant à part à la sortie de l'église, celui-ci lui annonça sans détour que Rousseau le Gros, Rousseau le bistrotier de la falaise, était tout simplement foutu.
Foutu, foutu ? Bégaya-t-il pour la forme, sachant bien que le toubib n'attendait que cela pour embrayer à toute vitesse.
« Bah que voulez-vous, c'est le scénario classique ! Gavé jusqu'à la gueule, le foie en a trop vu. Il n'arrive plus à participer aux libations. »
Cirrhose ?
Bah si l'on veut. En tout cas, il n'y a rien de bon à espérer. L'organe gonfle à une sacrée vitesse et c'est la mort qui souffle dedans.
L'espace d'une minute, Inizan revoit la scène. Le docteur s'ébrouait en évoquant les tournées colorées toutes prises sur le pouce, les cocktails de choc, le rouquin de 10 heures, le blanc sec de 11, suivi du petit jaunet des environs de midi. Puis il sautait rafale sur rafale du cognac de 14 heures à l'écume rouge framboise d'une bière du Hainaut marquée cuvée des moines et devenue spécialité de la maison.
Au fur et à mesure qu'il s'exprimait, le docteur semblait en proie à une grande agitation. Avant de partir, ajoutant le geste à la parole, il gonfla les joues et fit semblant de jouer de la trompette sur la place du bourg.
« Faites donc un saut au café Rousseau,
et vous verrez votre ami la mort à l'œuvre. On trombonne à coulisses dans le ventre du bistrotier, » déclara-t-il en se dirigeant vers sa voiture.
Met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. ducks. Saw a train set the night on fire. I smelled the spring on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box, shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old dead tree. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Nous revenons donc après la pause musicale au récit de Jacques Josse, Café Rousseau. Le prêtre redresse le buste, hume la fétidité des lieux. Depuis qu'il est entré, il se sent mal à l'aise, incommodé par l'odeur de renfermé, les effluves de vieux vêtements et les relents d'urine et de sueur qui flottent dans la chambre. Une odeur de bouc ou de renard mort. Il secoue la tête d'un air dégoûté, ne tient pas en place, se décide, se lève, marche droit sur la fenêtre, l'ouvre, s'y accoude. À chaque extrémité de la baie, les phares du Pan et des roches Douvres ont déjà commencé leur lent ballet océanique. Leur nuit sera calme, pas de brume, pas de nuages. Pas le moindre brin de vent. Inizan les envie, mais n'ose pas se comparer à eux. Il n'a pour lui que les apparences du veilleur, de la sentinelle, du feu. Et cette nuit encore, il devra se contenter de lisser son chapelet en pure perte, pendant qu'ils surferont libres à l'air pur, seconde après seconde, à la surface des vagues, apercevant de loin en loin quelques hautes cheminées traînant leur lascivité sur la ligne d'horizon. Ce seront celles des paquebots qui, partis de Panama ou des Kerguelen, ayant franchi le rail d'Ouessant à la mi-journée, feront nonchalamment route vers les grands ports du Nord. Depuis quelques jours, mes pensées rencontrent souvent le visage de Nikos. Je revois sa silhouette. Elle revient de façon régulière, coincée entre celles de Karoff, le R, Jeff, La Taille, Tony, Popeye et bien d'autres encore. Il n'a pourtant rien de commun avec eux. Il n'a jamais posé les pieds sur la terre ferme du Goëlo, mais seule la mémoire parvient à réaliser ce genre de miracle. Elle fait se réunir, se parler, se battre ou s'aimer des gens qui ne se connaîtront jamais autrement que dans la tête trouée d'un vieux moribond des bords de Manche. En l'occurrence, moi, Rousseau, marin devenu patron de bar dans ce trou perdu de Bretagne. Lui, Nikos, il a pourtant croisé des centaines de fois dans les parages. Sans doute même s'est-il certaines nuits de tempête abrité dans l'anse du Gwyn Segal. À deux pas d'ici, je me souviens. Un soir de Noël avec ma mère, ma sœur, son mari, leurs enfants. Le dîner avait lieu dans la salle du bas.
Dehors, le vent cognait dur, force 10, un coup de tabac démentiel très proche de l'ouragan, avec des vagues, des gueulantes, des déferlantes à tout rompre. Il y avait un cargo là-haut. Il a réussi à se mettre à l'abri vers 10 heures. On voyait les rangées de lumière, les petits hublots balayés par l'écume. L'équipage se préparait à fêter Noël dans le beau, le furieux, le tonitruant engage du bord. À un moment, j'ai pensé que ça pouvait être le flag Théophano. J'ai failli, en sortant pisser sur les coups de minuit, former un porte-voix avec mes mains et gueuler dans l'obscurité hurlante. Hé, Nikos, tu viens ? La paella de José de Oliveira est servie, elle fume sur la table, avec à ses côtés 3 bouteilles de rosé d'Espagne. Hé oh, Nikos, tu viens ? D'un geste ferme, le curé pose sa main sur le bras de Rousseau. Du calme, Rousseau, du calme. Celui-ci vient en effet de s'asseoir dans le lit. Il rit fort. Ah, Nikos, sacré Nikos ! Répète-t-il en jetant un regard fou vers la fenêtre. Tu sais, Inizan, je ne serais pas surpris de le voir surgir là, maintenant, avec sa casquette d'officier radio de la marine grecque sur le crâne. Peu à peu, le cabaretier retrouve ses marques. Il se glisse à nouveau entre les draps. Soliloque toujours, mais avec plus de douceur, en un lent murmure, reprenant salive et respiration avec régularité. C'était un marin de première, un homme affable, un joueur, un loup de mer à l'œil allumé par le corps des femmes. Il s'appelait Nikos Kavadias. Il a essuyé ses chaussures dans la sueur de tous les tripots du monde. Il traînassait accoudé au bar, une cigarette au bec, un verre à la main. Il se laissait emballer par telle ou telle fille en un quart de tour et puis il montait avec elle, en une sorte de cérémonial savamment huilé, la tête en arrière, le torse droit, très digne, esquissant une courbette par-ci, une autre par-là, à destination des dames qui redescendaient l'escalier, leur besogne terminée. Un jour ou l'autre, il les retrouverait au hasard d'une halte, il le savait, et elles aussi. Sa réputation dépassait les frontières. Nikos, c'était le lyrique des maisons borgnes. Parfois, il griffonnait des vers sur les nappes en papier en bout de table, avant de les déchirer délicatement en une quinzaine de confettis qu'il fourrait ensuite dans ses poches de pantalon. En montant accompagné, il aimait, disait-il, se sentir le contact des mots déchirés au bout de ses doigts. Tout nu là-haut, il s'amusait à remettre de l'ordre dans ses lignes. Une sorte de puzzle qu'il fabriquait en demandant à la dame de bien vouloir lui offrir l'hospitalité pour un instant. Moi, j'étais sur l'Estelle Delmas, lui sur le flag Théophano. Nos routes se sont croisées ainsi jusqu'au début des années 70. À Barcelone, Marseille, Anvers, Rotterdam, Hambourg, un peu partout, et pas seulement en Europe. Puis j'ai posé mon sac et lui fit de même. Peut-être pour prendre un bar, le café Kavadias, sur les bords de la mer Égée, à savoir. Quoi qu'il en soit, son bateau a coulé à pic en moins d'une demi-heure, le 30 janvier 1990, pas très loin de Portsmouth. Il avait 19 hommes à bord. Tous perdus, corps et âme, tirés en arrière par l'invisible paluche du fond. Le curé se signe. Ses lèvres remuent. Rien d'audible n'en sort. Il essaie de se représenter Nikos Kavadias,
pareil au corpulent bavard qui vient de se taire pour téter une goulée d'eau plate à la bouteille. Il ne peut s'empêcher de songer à la vie de ces deux-là et de leurs congénères. Toujours en équilibre sur un fil, en voyage, sur les bleus au cœur d'un atlas en pointillé. Pas vraiment en fuite, mais toutefois assez détaché du point d'ancrage pour se sentir libre d'être chez eux en différents endroits du globe. Il picore un brin d'exotisme, comme ça, en espérant que Rousseau redémarre, pour y être sans y être, lui, curé en charge de la paroisse. 190 habitants en hiver, 15 fois plus en été, toujours en sursis au milieu des ruines ouvertes aux goélands et des résidences secondaires fermées à double tour 9 mois sur 12. Je vais basculer par-dessus bord, cela ne va plus tarder. L'abbé acquiesce en hochant la tête. Alors Rousseau lui prend la main, la serre plusieurs fois de suite, pour lui transmettre sa sympathie et sa gratitude. En même temps, un sourire apparaît sur son visage. Avant la fin de la semaine, j'aurai rejoint ma mère au bourg. Le silence est irréel. Seul bat le pouls de l'horloge. On l'entend à peine. Il doit habiter l'obscurité, telle une goutte d'eau régulière, réfugiée dans le secret de ses chariots d'or. Tout va bien. Rousseau somnole entre les draps. Cette nuit, il ne le saura jamais, le petit théâtre d'Inizan s'arrête à nouveau dans sa chambre. Les étoiles sont en place, elles servent de lampion et la lune apparaîtra en fin de partie sur le versant opaque de la Seine. Tout va bien et pourtant, en une fraction de seconde, tout tombe à terre, le décor s'effondre, une réplique s'abîme, s'éteint, quelqu'un cogne au dehors, on tambourine à l'entrée, le curé sursaute. Les coups redoublent sur le bois de la porte. Il y a un martèlement continu, puis des éclats de voix, des injures, des supplications. Inizan se précipite à la fenêtre. D'un geste brusque, il écarte les deux battants. En bas, Tony Karoff et un chien sont cambrés sur leurs pattes. Ils lèvent la tête en même temps. Karoff veut parler, mais à l'instant où sa voix s'élève, le chien entonne un long hurlement lugubre. Il essaie à nouveau de s'exprimer, mais déclenche un second aboiement, plus rauque, plus lourd, qui, cette fois, se propage à toutes les niches disséminées sur la falaise. « Ta gueule, Micmac !» Karoff s'énerve. Il balance un coup de pied à la bête, qui tousse, s'étonne, et finit par se taire en posant son museau sur les godasses du professeur. Là-haut, le curé patiente. Derrière lui, Rousseau, réveillé, écarquille des yeux. Il écoute les chiens. « Dieu, quel barouf !» Il en reconnaît quelques-uns à l'oreille, notamment Bob, le grand berger allemand, qui garde la station-service de 21h à 6h du matin. Celui-là cause plus fort que toutes les autres réunies. Il se marre, s'amuse, se dit que ça doit être le camion de ce cinglé de Popeye qui les a réveillés en traversant la nuit en trombe. Bientôt le concert s'enraye, s'atténue, s'essouffle. Du bas, c'est finalement Tony qui se décide à brailler. « Mon père, venez vite !» Nitpi a eu un accident. Voilà, nous avons terminé pour ce soir et nous reprendrons donc la suite du récit de Jacques Josse, Café Rousseau, la semaine prochaine. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur bretagne5.fr. C'est une émission enregistrée par Frédéric Guyon. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.